et la magie opère.
Le métal est imprimé.
Et ça sort sous forme de plaques, comme ça. Et après, avec ces plaques, on va les découper pour faire des bagues, des boucles d'oreilles, pendentifs.
C'est mon atelier. Bah, ouais, là, t'as mon établi. Donc c'est là que je fabrique. Puis sinon, c'est un peu moins bien rangé que ça, en général. Mais c'est un atelier, quoi.
Mais comment t'es arrivée à Feltin ?
Par court-circuit, par le réseau Repas. Réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires, dont fait partie court-circuit, ambiance bois et champ libre. Et en fait, moi, j'ai fait cette formation-là et j'ai passé un mois et demi à bosser à court-circuit. C'est un compagnonnage. Pendant 5 mois, tu passes d'une entreprise à une autre qui fonctionne sur un mode autogestionnaire. Et du coup, tu passes du temps comme ça. Et puis, en fait, j'ai passé un mois et demi ici et ça s'est hyper bien passé. Et on m'a proposé de m'embaucher à la fin de ce mois et demi de formation. Et du coup, moi, j'étais à Toulouse avant et j'ai bougé de Toulouse et je suis venue m'installer en Creuse, à Feltin.
Et là, c'est fini et maintenant, tu fais autre chose.
Ouais, ça fait un an et demi que j'ai arrêté et que j'ai repris. C'est Mélanie des Michelines qui m'a proposé de reprendre un atelier ici, parce qu'elle, elle était déjà installée là, mais il y avait pas mal de place. Et du coup, elle m'a proposé de reprendre... De reprendre un petit bout d'atelier, de me construire ma petite boîte là. Et voilà, du coup ça fait un an que je suis installée là et que je fabrique mes bijoux.
Ça se passe bien ?
Super. Les voisins sont très sympas. Non, ça se passe bien. Après, bah voilà, ça fait seulement un an que je travaille, donc c'est tout encore en train de se mettre en place, quoi. C'est le début.
C'est un bon endroit pour créer des bijoux.
C'est un bon endroit pour être créatif.
On est à côté de la GoPro de l'équipe de Vlad.
Ça filme pas ? Je te capte pour ta sécurité. Tout ce qui vient d'en haut, c'est toujours pour ta sécurité. Il faut que tu le saches. On fait pas les choses comme ça pour embêter les gens. Mets ton doigt sur la caméra pour que j'ai tes empreintes. Voilà. Maintenant, t'es fiché. Fiché, ça veut dire que tu peux te fiche la paix. Personne peut t'embêter. On te protège.
Visite. C'est l'office de tourisme du Lotissant qui fait la visite du quartier de la Gare. Une présentation de tous les artisans, on fait un tour.
C'est pour ta sécurité que je te filme.
Alors ici, vous êtes pour la vraie visite, on va parler, pour la visite alternative. Tout à l'heure, vous pourrez visiter la brasserie de la Creuse et le célèbre propriétaire Al Capone. Ici, Georges Prudent, luthier. Et nous avons un exemple de transformation de caravane et de remorque en détournement en objet utile. Vous avez ici une caravane, une remorque qui sert de cuisine. Vous avez ici une remorque destinée à l'art contemporain. Elle sert absolument à rien. Et vous avez derrière nous une caravane qui a été transformée en scène.
Bonjour, bonjour à tous par ce beau temps. Je me présente, je suis Valérie avec un Y. Et c'est Frédéric, QE. Ma spécialité, c'est animer les soirées. On est sur YouTube, Valérie et Frédéric, c'est nous.
Les journées européennes des métiers d'art, c'est arrivé comme ça, ici, après l'initiative de Claire-Marie, qui en a parlé à l'ensemble des artisans qui travaillent dans le coin. Et puis, ils ont contacté toutes les assos ou les structures qui étaient sur le quartier. Et puis, ça s'est monté tranquillement. pendant 6 mois, ouais, je pense que la première réunion a eu lieu en octobre. Alors voilà, on a des fumistes, des ébénistes, des bijoutistes, on a du monde. Alors je me rappelle plus combien il y a de personnes, je crois que des artisans, il doit y en avoir au moins une vingtaine, oui. Alors ils sont pas tous établis ici, mais ils sont tous de la région. Et la petite maison rouge, c'était aussi l'occasion de pouvoir fédérer les gens autour de ce projet.
Il y a de l'ascension, là, Tristan, là.
Vous pouvez maintenant aller voir les artisans d'art qui vont essayer de vous soutirer de l'argent, car c'est dimanche.
Donc là, on a une sorte de tabouret ou de table, et c'est du chêne.
Non.
C'est du frêne.
C'est du frêne. C'est que du frêne. C'est que des chutes de frêne.
C'est beau.
Vincent partage l'atelier avec moi, Antoine et Clémence. Vincent, c'est lui à l'autre bout là-bas.
Ouais, il y a quand même une bonne bande de travailleurs du bois là.
Ouais. Du bois et pas que, parce que Vincent et moi, on est tous les deux tailleurs de pierre aussi. Donc c'est pour ça que là, il y a un petit bout de pierre avec un petit bout de bois. Donc ça, c'est Vincent qui a... Ce tabouret-là, il est fait avec des chutes de bois d'une série de tables qu'avait fait Vincent à l'époque. Et ça, c'est tous les morceaux de bois que Vincent n'a pas voulu parce qu'ils étaient à défaut. C'est-à-dire que bah, là, il y a effectivement de l'écorce, là, il y a un nœud, là, il y a de l'aubier. Et ça met des contraintes dans le bois. Et j'ai fabriqué ce tabouret en me disant que je me moquais un peu des contraintes et que moi, ce qui me plaisait, bah, c'était l'esthétique du truc. Et que je verrais si ça allait bouger ou pas. Alors, moi, quand je l'ai fabriqué, là, c'était tout lisse. Et tu vois, tous ces nœuds et tout ça, bah, ils ont travaillé. Et du coup, bah, maintenant, c'est plus tout lisse.
Parce que tu l'as pas attendu des années et des années de séchage, en fait.
Ah si, il était super sec, mais vu qu'il n'est pas... tu utilises des matières qui sont amenées de toute façon à bouger, parce qu'un nœud comme ça, de toute façon, il est amené à bouger, bah, tu sais que ça va bouger. Donc tu prends le parti de te dire que tu choisis une matière qui va bouger. Et puis, advienne que pourra. Donc là, ça marche, parce que esthétiquement, ça fonctionne très bien. Tu peux quand même t'asseoir dessus, il y a un millimètre qui a bougé par là, un millimètre par là, c'est pas la fin du monde. Mais ça reste une pièce esthétique qui marche bien. Visuellement, ça fonctionne. Ça plaît plus ou moins.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu les artisans, c'est un peu le luxe? Quelque part, vous êtes un peu dans le monde du luxe.
Non. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que... non, on n'est pas du tout dans le monde du luxe. On fait des choses belles, on fait des choses qui nous amusent. Et après, on bosse principalement pour des gens du coin quand même. Un peu des gens, on bosse un peu sur Paris aussi, mais on bosse quand même pas mal dans le coin. Et puis on fait pas que du luxe. Là, on présente des pièces qu'on a fabriquées. Ça, c'est un truc que j'ai fait pour moi. C'était un dessert. Voilà. Mais on fait aussi ce que nous demandent les gens. C'est-à-dire que si toi, tu me demandes un tabouret qui n'est pas fait comme ça et qui est dans ton budget, je vais bosser dans ton budget, tu vois. Et puis, c'est pas parce qu'il est tout beau, tout bizarroïde, celui-là, qu'il est super cher non plus. Mais on peut aussi bosser dans le luxe si on veut. Pas que, tu vois.
Ah, je posais juste la question comme ça. Hein.
Non, on bosse pas que dans le luxe, non, carrément pas. C'est pas vrai. Déjà d'une, parce qu'il faut avoir ses entrées hein, pour aller bosser dans le luxe. Après, on fait de la qualité. Donc, on bosse pas pour tout le monde. Hein. Faut pas être menteur non plus. Hein, et ceux qui viennent pas chez nous, ils vont chez Ikea et... Ils achètent des trucs pas chers et ils se font baiser parce que ce qu'ils achètent pas cher, c'est plus cher que ce qu'on fait nous. Bah oui. Parce que nous, ce qu'on te vend, même si c'est plus cher que chez Ikea, c'est d'une qualité tellement supérieure qu'en fait, c'est pas cher. Parce que ton truc Ikea tout pourri, tu vas le vendre vite fait, bien fait. Parce que même avant Ikea, tu l'achetais, tu pouvais le démonter et le refiler à ton cousin ou à ton neveu, machin. Maintenant, tu peux même plus le démonter. Donc ton truc qui est pas cher... Ben, il coûte vachement cher parce que quand t'en veux plus, tu le jettes. Alors qu'un meuble comme ça, ou tu vois, comme cette armoire, ben cette armoire, je peux la filer à mon gosse et qui pourra la filer à son gosse. Et voilà, donc en fait, qui c'est qui est pas cher?
Oui, en plus, c'est du bois plutôt du coin, j'imagine.
C'est que du bois du coin.
Parce que Ikea, il me semble qu'ils utilisent beaucoup de. C'est des panneaux. Le boulot de la taïa, enfin, qui vient du bout du monde.
Bah oui, ça c'est sûr. Après, là, c'est que des essences locales. Donc forcément, c'est plutôt du bois qu'il est facile pour nous de trouver ici aussi. Tu vois, après, le client qui vient me demander un escalier en bois exotique ceci ou cela, et qui veut mordicus que ça, qui va pas en démordre, et que, voilà, j'aurais pas le choix d'aller choper du bois qui vient d'ailleurs. Je vais aller choper du bois d'ailleurs parce que le client, il veut ça. Mais les gens qui veulent et qui acceptent d'avoir du bois du coin, on peut choper et avoir du bois du coin. C'est assez facile. Ici, on chope le peuplier que tu vois derrière, on l'a chopé à une scierie qui est à 40 minutes d'ici, à Saint-Avis, en Auvergne.
Une grosse scierie, ouais, sur le bord de la route.
Voilà, c'est ça. On ne peut pas la rater. Mais après, on a aussi une démarche Antoine, moi, Arnaud, charpentier, je ne sais pas si tu es passé à l'atelier d'Arnaud à côté. On a un copain qui fait de la gestion forestière. Et qui de temps en temps nous appelle en disant les gars, là je suis sur une coupe de Douglas et sur le bord de la route il y a un mélèze ou il y a un chêne ou il y a un truc, on va le couper parce que de toute façon il fait partie du truc. Si vous le prenez, c'est pour vous, on vous le fait pas cher, vous démerdez, vous trouvez un sieur, vous le faites scier et puis ça vous fait de la matière première à pas trop cher. Ou sinon ça part en pâte à papier. Et du coup nous on fait ça aussi, hein. Des fois on a l'occasion d'acheter des bois à pas trop cher parce que sinon ça part en pâte à papier, donc on l'achète au prix pâte à papier. On le fait scier, on stocke, on fait sécher comme on faisait autrefois. Et du coup on a du bois à pas trop cher, une belle matière première avec du bois du coin là en dessous, si tu veux on peut descendre après. T'as tout un tas de piles de bois, et je peux te faire voir le bois où il a été coupé, où il a poussé et tout ça. Et voilà, tu peux dire à tes clients, cette armoire elle est faite avec ce bois, il a poussé dans telle parcelle, sur telle commune là-bas. Et tu racontes aussi autre chose à tes clients, que ça vient d'IKEA, c'est du Schmutz, et voilà quoi.
On va continuer dans l'impasse.
On peut les photographier.
Prenez une photo, mais ne leur donnez pas à manger, ne les encouragez pas.
T'as des bois là-bas qui sont au fond, c'est des vieux stocks d'un vieil artisan. Le mec est parti en retraite, qui a son stock, qui garde, et puis qu'au bout d'un moment c'est vendu, pas cher, et du coup tu récupères ces bois-là. Ils sont pas forcément formidables, parce que t'as une bonne partie que tu vas acheter, parce que c'est piqué par tout un tas de bestioles et machin, et puis t'as toute une partie qui est carrément utilisable. Et ce qui est génial, c'est que dans ces vieux stocks, tu chopes des essences que tu trouves plus maintenant. Parce que à cette époque-là, ils coupaient, t'avais un cerisier qui était en train de crever dans un coin, t'avais 2 mètres de billes ou 1,50 m de billes qui était exploitable, chose que maintenant on n'exploiterait plus du tout, on se ferait pas chier à couper ce genre de truc, ça part au bois de chauffage direct. Eux, ils le coupaient. Parce que ça pouvait faire un petit bout de meuble, un petit bout de machin, un petit bout de cela. Donc tous ces bois-là étaient exploités. Et du coup, tu en retrouves dans ces vieux stocks de scierie, ou ces vieux artisans-là, tu rechoppes du coup tout un tas d'essences que tu n'as plus maintenant en scierie. Maintenant en scierie, tu trouves du chêne, du peuplier, de l'érable, enfin tout un tas de trucs bien standardisés quand même maintenant. Mais tous ces petits fruitiers, tous ces machins-là, tu en as très peu. Ou alors super cher, quoi. Alors là, l'escalier, il est en devenir. Voilà, et là, du coup, tu as du bois qui sèche. Et ce bois-là, il a été coupé dans une forêt à côté de Néhou. Tu vois, une quinzaine de bornes d'ici. Donc, tu as du chêne. Tout ça, c'est du chêne, là. Là-bas, il y a un hêtre. Là-bas dessous, et puis il y a une bille de tilleul qui est là. Et donc ça a été coupé en début 2017. Et il faut, selon les épaisseurs, tu vois, il y a du 45, le plus épais dans ce que je dois voir, ça va être du 45. 1 cm de séchage par an. 45 mm. En fait, dans 3 ans, c'est bon, quoi. Mais du coup, voilà, c'est du bois qui a poussé dans le coin, qui a été coupé par un mec... Là-bas, Monsieur Moreau, à la commune de Saint-Frion. Le mec qui gère la forêt, c'est un type du coin. Le bûcheron qui l'a coupé, il habite Champagnat. Le mec qui l'a coupé en planche, c'est le sieur à Saint-Frion. Et il va être travaillé par des gens à Feltin et il sera vendu à des gens peut-être dans le coin. Donc c'est du bois, tu peux tracer tout le truc comme ça. Et c'est pas mal. En fait. Mon métier, c'est tailleur de pierre. C'est pour ça qu'il y a de la pierre aussi là-dessous. Donc avant, j'ai fait de la pierre et puis je suis venu au bois parce que la pierre, c'est un peu lourd, avec le bois, c'est plus léger. Et puis que ça me permettait de faire d'autres choses, parce que faire que de la pierre...
Physiquement, c'était difficile ?
Non. Bon, physiquement, c'est dur. Et puis après, il n'y a pas forcément du boulot. Partout, tout le temps, ici, quoi. Donc du coup, je suis passé au bois, puis parce que j'aime bien, puis je suis curieux, et puis j'avais envie de faire autre chose. Donc je suis passé au bois.
Bah merci pour la visite. Hein.
Bah de rien.
Je sais pas comment tu t'appelles, comment on te présente.
Moi c'est Guillaume. Guillaume Capgras. Je suis parti de l'atelier le 333. Ici. Et là c'est notre voisin ça. Vincent qui fait un agrandissement pour son atelier métallerie. Donc il se fait plein de trucs ici. Tu vois ça c'est des palettes de briques. Ah, tiens, il y en a une là, toute petite. Mais alors c'est pas bien, faut pas le dire, je l'ai fait venir d'Espagne. Et ça c'est des briques qu'on fabrique plus, c'est un tout petit modèle. C'est les briques plâtrières que tu trouves en France, tu vois, font gentiment, sont gentiment 4 fois plus grandes. Et celles-ci, elles sont super costauds, mais surtout ce qui est bien avec leur petit format, c'est qu'avec ça, tu peux faire du rond. Tu vois, avec des toutes petites briques plates, tu peux faire du rond. Et en fait, avec toutes ces briques-là, j'ai fait une grosse restauration de voûtes dans le Puy-de-Dôme. Donc toute une série de voûtes en croisée d'ogives. Et je les ai faites avec ces briques-là, parce que je trouvais pas de briques par chez nous.
Donc il manque des fabricants de briques, donc quoi ?
Eh ben, on avait un super... à Pont-au-Mur, il y avait les terres cuites de Lachant, qui étaient des fabricants de terre cuite, tomates, briques, tuiles, tout ce que tu voulais, tout format, etc. Et ça a été mangé par le productivisme. Voilà, parce qu'ils étaient trop petits, ils avaient un outil de travail qui était trop vieux, et du coup, c'était plus rentable. Sauf qu'ils faisaient des trucs que plus personne faisait. Donc on va en Espagne chercher...
Dans les Asturies.
Ouais, dans les Asturies, ouais. Mais elles sont bien. Hein. Bon, la prochaine fois que tu viendras, je t'aurai fait un escalier. Je te promis.
Pour des gens qui sont quand même dans le... Peut-être pas dans le luxe, mais dans le beau. Vos bâtiments, c'est pas encore d'extérieur.
Avec quand même quoi, j'ai mis des fleurs. On déconne. Attends, les bâtiments, attendez.
Je sais pas, c'est dont vous occupez. C'est pas très important.
Si, c'est vachement important. Non, c'est...
Vous avez récupéré l'usage de bâtiments en parpaing.
Ouais. On a récupéré ça. Déjà, on n'a pas récupéré, on a acheté parce que c'était quand même pas gratos. Tu vois. Et donc, on a acheté ça. Il faut qu'on les entretienne. Donc, c'est déjà pas mal aussi. Parce que l'électricité, tout ça, il y a des trucs, c'est pas GGN. Il a fallu faire tous les raccordements, les eaux pluviales et tout ça, donc ça a encore coûté un petit bifton. Là, l'escalier, tu vois, pour descendre en bas, qui est pas fait, c'est pareil, ça va être un petit billet. Là, on a quand même fait un petit peu de béton, tu vois, avec un petit peu d'aménagement en ardoise pour mettre des fleurs dedans, pour que ce soit joli après. Mais là, le prochain tour, c'est ça, fermer ça en ossature bois, avec un joli bardage, machin, pour se faire une petite partie... Un peu bureau, un peu exposition, parce qu'on n'a pas de... Dans cet atelier, on fait que de la production, et on n'a pas d'endroit où exposer nos pièces. Tu vois, tout ce que tu as vu là, c'est principalement des pièces qu'on fait pour des salons, pour des choses comme ça, ou pour nous perso, ce que tu as vu chez moi là-bas, c'est ce qui vient chez moi. Mais du coup, et là, voilà, ce sera dédié à ça. Mais il faut du temps, il faut de la finance pour faire ça, et voilà. Donc on accepte de tous les dons, Radio Vassivière, on accepte tous les dons.
Rappelons comment vous êtes organisé, parce que c'est la journée des métiers d'art, plein de gens exposent ce qu'ils font, et aussi des gens qui ne sont pas installés ici dans le quartier de la gare, mais qui ne sont pas très loin. Toi, tu es installé ici, tu travailles ici, et vous êtes une série d'indépendants les uns à côté des autres, ou vous avez un collectif, enfin juste au niveau formel, c'est quoi ?
Pour l'instant, on est formel. En fait, le 333, c'est quelque chose de formel, mais d'informel. C'est un nom qu'on a donné à l'atelier, parce qu'on est quatre dedans. C'est un atelier qui m'appartient, mais je loue l'espace de travail, ici. Mais après, on mutualise les machines, on mutualise tout un tas de trucs. Et on n'est pas regroupé sous une entité groupement économique de travail ou CRL, société. On a chacun nos petites entreprises et on travaille sous le même toit. Voilà, c'est exactement ça. Et après, on essaie de s'organiser pour faire des choses intelligentes ensemble.
Comme les journées de ce week-end, par exemple.
Ouais. Moi, j'ai personnellement rien fait du tout pour l'organisation de ces journées. si ce n'est un bon bourguignon vendredi midi pour tout le monde. Mais sinon, j'ai rien fait d'autre. Les autres, ils ont organisé tout ça, ils ont fait toute la communication, ils se sont farcis les journalistes, les machins, les trucs. Ils ont fait les flyers, ils ont fait les étiquettes, ils ont fait des réunions et tout un tas de trucs. Moi, j'ai rien fait.
Bah, mais... tu te farcis le reportage de Radio Vassilia.
Ouais, mais en même temps, je les en remercie. Parce qu'ils ont fait un truc qui est super chouette, il y a plein de gens partout et c'est très bien. Mais du coup, pour en revenir à ce que tu disais au départ, l'aménagement extérieur, ça se fait aussi gentiment. C'est-à-dire que tu vois, on a fait cette merde-là pour mettre trois fleurs. La cabane à bois, avant, c'était un truc tout pourri avec des palettes et des bâches qui s'envolent au vent. Donc on a fait un abri bois sympa. Vincent, le voisin, il fleurit, il entretient, il nettoie. Il amène sa touche personnelle. Et puis voilà. Et puis quand ce petit agrandissement-là en bois il sera fait, bah, ce sera mieux. Quand les aménagements-là ils seront faits... ce sera bien, avec l'escalier c'est pareil, t'as tout un tas de, t'as tout un florissement qui est prévu et tout ça, donc bah, faut du temps. Bah, c'est pas autre chose que ça, faut du temps. Et je pense que ceux qui sont arrivés là il y a 15 ans en arrière, s'ils avaient parié qu'on serait là aujourd'hui.
C'était la bière, la Félix en premier, non?
C'est Vincent.
Vincent, pardon.
Vincent qui était là. C'est lui qui est arrivé le premier, qui a récupéré cet atelier-là. Il a ouvert ses portes. À Alessio, sous réserve de dire des conneries, hein, mais il a ouvert ses portes à Alessio et Rebecca quand ils sont arrivés dans le coin. Les premiers fûts de bière ont été fabriqués là-dessous. Et après, la Félix s'est installée là-bas, à ce qui est maintenant la petite Maison Rouge. Donc ils se sont installés là. Est arrivé ensuite Jean-Sébastien, qui a chopé cet atelier-là, qui a monté Diadelos avec un collègue à lui. Et ensuite est arrivé Arnaud, je crois. Ouais, la scope des ateliers, dans les locaux qu'il y a là-bas. Et puis, moi, un peu plus tard, quand j'ai repris la suite de Jean-Sébastien ici. Puis voilà, gentiment, ça a essaimé. La brasserie est descendue en bas, la petite Maison Rouge est montée à la place de la brasserie. Antoine et Vincent sont arrivés avec moi à l'atelier, puis Clémence, et puis bah voilà, ainsi de suite, quoi. C'est une petite boule de neige.
Ça a l'air assez florissant, comme ça.
Florissant, ouais, non, c'est un groupement de gens qui ont envie de faire des choses et puis qui se donnent les moyens de les faire, quoi. C'est pas mal. Parce que ça ne tombe pas tout cuit dans le bec non plus, tu vois. On travaille. On organise des fêtes, on boit des canons, c'est sûr. On bosse aussi, tu vois, toute la semaine, tous les jours de la semaine, des fois le week-end aussi.
C'est comme pour Feltin, s'il y avait quand même un gros truc un peu à l'écart du centre-ville. Enfin, disons que le centre, la place centrale, elle est à 500 mètres, on va dire. Du coup, ça circule moins que dans la rue principale de Feltin, quand même.
Mmh. En même temps, c'est des lieux de travail, c'est des espaces de travail. Tu peux pas te planter en centre-ville. On a des SMI qui nous amènent de l'aluminium ici, on a des gens qui nous livrent des panneaux ici avec des SMI. Je travaille avec un chariot élévateur, on peut pas être dans la grande rue de Feltin, quoi. C'est pas possible. Donc c'est bien parce qu'on est excentré, mais on n'est pas dans une zone industrielle, toi, on est juste en bas. Ça reste une implantation urbaine d'une activité artisanale, toi. C'est pas une zone industrielle toute pourrie. Hein. C'est pas la zone du Mont, quoi. Message.
Nous, on est des amoureuses de la Creuse. Alors, justement, on raconte que finalement, on a une idée préconçue quand on arrive en Creuse, de se dire qu'on ne pourra pas se débrouiller ni dans les transports, qu'on sera obligé d'être dans sa voiture, qu'on aura des problèmes avec les transports, avec les réseaux Internet.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, non. En fait, on s'organise différemment. Même si on est coincé dans sa voiture, c'est à côté d'une forêt. Donc je préfère être coincée à côté d'une forêt ou dans la forêt ou passer du temps dans les chemins de campagne que dans le métro ou que coincée dans les embouteillages. Donc vive la Creuse. Moi je suis pro, vraiment. Hein. On est arrivés il y a 2 ans, toutes les deux, et on a racheté l'ancienne boulangerie de Pontarion. Et on a fait un atelier d'artiste à l'endroit où il y avait le four à pain. Voilà, et depuis, on est... donc Delphine Brod, commence à être assez connue en Creuse. Et on a de la place, on est inspiré par la nature, on a un contact avec les gens qu'on n'avait pas du tout dans les grandes villes, et une entraide Parce que là, par exemple, ma voiture est tombée en panne, et ben, j'ai une amie qui m'en a prêté une. C'est une nouvelle amie, puisqu'elle a, je sais pas, je la connais depuis pas longtemps, mais... Et je pense qu'à Paris, j'aurais jamais réussi à faire un truc pareil, parce qu'on se connaît pas entre voisins, donc... Non, je trouve que c'est génial.
Et vous avez habité où dans votre vie, en gros ?
Beaucoup en ville, beaucoup à Paris, puisque je suis née à Paris, mais j'ai aussi habité un peu à la montagne, un peu, mais je connaissais pas du tout la Creuse. Et j'ai surtout habité en ville, en fait, hein, mais à Paris, en fait. Donc entre Paris et la Creuse, c'est vrai que le choc est important au début, hein. C'est vraiment le grand écart.
Comment vous avez découvert la Creuse ?
En fait, on a failli être éjectés de notre appartement et on a cherché sur le Bon Coin la maison la moins chère de France. Et on a atterri à l'ancienne boulangerie de Pontarion, en vrai.
Ça coûtait combien ?
10 000 euros. Donc quand j'ai dit à mes amis à Paris 10 000 euros, personne ne m'a cru. Personne ne m'a cru, mais je pense qu'il ne me croit toujours pas. Maintenant, il commence à comprendre un peu, mais c'est même pas le prix d'un bout de garage là-bas, quoi. Donc, c'est vrai que le rapport prix, le rapport qualité de la ville, c'est tellement différent que, bon... Et puis, on a découvert que la Creuse était vraiment très, très sympa, que c'était... Il y a des gens ici qui sont... Même s'il y a une population qui est assez âgée, il y a aussi beaucoup de jeunes, en fait. Et il y a beaucoup de créatifs. Ça, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait tout un réseau d'artisans. Donc ça, à ce niveau-là, c'est super.
Et vous avez fait un monté les prix, c'est ça?
C'est ce que je me dis, des fois je me dis, faut pas trop que je le dise. J'ai à Paris, quand j'ai vu mes amis, j'aurais dit non, venez pas en Creuse, c'est moche. Pour qu'ils nous laissent tranquilles.
Alors je vous rappelle, nous sommes aux journées européennes des métiers d'art. Je vous rappelle qu'un artisan d'art est un chômeur qui essaye de s'occuper en attendant de trouver un travail. Évidemment, cette automobile n'appartient pas à un artisan d'art. C'est à Vincent Dubourg. Personne n'a 30 000 balles à foutre dans une bagnole dans ce quartier.
Inutile de se précipiter quand on croit en l'amour. L'attirance mutuelle peut être une illusion. Alors je te pose une question. Est-on prêt à faire le grand plongeon dans nos secrets profonds? À toi. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à nous contacter. On sera toujours là pour vous. On est sur YouTube, n'oubliez pas. Les sentiments sont...